Sol, Miguel. Comment penser au Sol, Miguel? Alors, pour essayer de rendre compte un petit peu là, de tous ces éléments d'observation, il me semble, lorsqu'on met ensemble ces choses-là, on peut relier trois thèmes, qui sont en fait trois fils conducteurs, donc le rapport au fond, qui me semble intéressant de les approfondir. Alors, d'une part, la persistance des analogies domestiques dans les représentations du compte bancaire et dans le rapport au compte. C'est-à-dire que souvent, en fait, le compte est perçu comme un contenant, un récipient, ou comme un territoire de propriété. Et c'est justement ce qui montre la difficulté à cette image-là ne s'applique pas aux découvertes. C'est difficile de penser ce que c'est une grandeur négative dans la récipient. Alors, d'autre part, il y a ce qu'on peut appeler les analogies personnelles du compte. Comme si le compte, l'argent, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, représentait un prolongement de soi-même, donc l'analogie personnelle du compte. Enfin, ce qui revient aussi fréquemment, c'est l'importance du rapport à des institutions, la banque ou l'État, susceptibles d'exercer un contrôle sur la propriété de l'argent et sur soi-même, où l'on retrouve une dimension classique, une dimension d'indépendance. Alors, deux remarques à propos de ces trois thèmes. Première remarque, c'est que les analogies domestiques et personnelles du compte, dans une certaine mesure, elles sont véhiculées par les banques elles-mêmes et même favorisées par la forme même de la comptabilité bancaire. Alors, pourquoi ? Les analogies domestiques sont très denses, par exemple, dans le langage utilisé par les professionnels pour décrire les services et les produits. Je donne deux exemples. On parle d'un matelas de sécurité, ou on parle d'une réserve d'argent. Alors, ce que j'appelle ensuite les analogies personnelles du compte, eh bien, bon, j'ai été surpris d'observer que chez les professionnels eux-mêmes, on utilise fréquemment le langage du corps pour parler du découvert. C'est-à-dire que, au lieu de dire là, je suis contre l'éditeur, on dit vous avez la tête sous l'eau ou est-ce que vous allez arrêter l'hémorragie. Je trouve ça important parce que j'en parlais tout à l'heure de contraintes du corps. Enfin, sur le plan de l'état symbolique, là, il y a quelque chose qui revient. Alors, de plus, on pourrait dire que le compte est construit, même du point de vue juridique, comme un analogue de la personne en sous-moral terme, puisqu'il est ce support continu auquel on rattache tous les détails et les de même que la personne, c'est ce support continu auquel on a pu le. Alors, bon, la deuxième remarque, c'est à propos du thème du rapport à l'institution. Donc, ce thème correspond dans une certaine mesure à une fonction même définie juridiquement par la fonction de la banque, une mission légale de la banque, en particulier au rôle de signalement de surendettement. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que chez les clients, ce type de rapport subjectif à l'institution bancaire qui est de vouloir éviter à tout prix d'être à découvert, vouloir éviter la dette à tout prix, en fait, on le retrouve pas seulement chez des clients qui sont à découvert. On le retrouve aussi chez des clients qui essayent de se protéger, enfin, qui ne sont pas directement engagés par les découvert, mais pour qui la relation bancaire signifie cela, c'est-à-dire signifie le risque d'être à découvert. Et donc, ça me laisse penser qu'il y a une mémoire individuelle, c'est peut-être même une mémoire intergénérationnelle, de la dette. Pour une partie des clients, alors, c'est certainement directement lié à leur place, que la banque appelle moyen bas de gamme dans l'hierarchie des clientèles, les relations qui sont centrées sur l'enjeu d'éviter la dette, ce qui est à la fois donc, éviter la dépendance réelle, la restriction des moyens de paiement, et éviter aussi ce que représente la dette. Bon. Donc, pour conclure rapidement, je dirais simplement que il me semble important aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup d'études qui portent sur exclusion bancaire, sur découvert, parce que ça correspond à une violence sociale et une violence statique légitime. Mais il me semble intéressant de déplacer un petit peu l'accent de la recherche et d'interroger précisément la relation bancaire plutôt à partir du rapport à cette compagnie. Il me semble que c'est nécessaire, si on veut comprendre la relation du crédit aujourd'hui, et particulièrement sur ce que l'aspect, que j'ai appris que le sens large du crédit sur trois.
Merci. Donc là encore, on peut prendre une série de questions très ponctuelles. Après, prendre une grande respiration, sortant un petit peu, et puis attaquer la discussion avec la discussion de Jean-Pierre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions.
Parce que là, vous élargissez un peu par rapport au texte. C'est la question du découvert par rapport à la relation initiale du crédit.
On a le droit de rediscuter à partir du texte initial aussi.
Hein. Non, bien sûr. C'est juste pour. Ouais.
Oui, mais
les questions se rapportent justement à ça.
En fait, vous avez dit interroger la relation bancaire à partir du compte, hein, c'est-à-dire le compte des clients.
Je voulais dire à partir du rapport au compte, en fait, et disons à partir du. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la bancarisation des ménages, c'est-à-dire l'installation du recours au compte bancaire comme norme quasi obligatoire, ça c'est dit, ça l'a dit tout à l'heure, par exemple, depuis la mensualisation des salaires, etc. Cette évolution ne va pas se voir, et en fait, la question c'est qu'est-ce que ça introduit, quand on introduit ce type de comptabilité, du compte bancaire, qu'est-ce que ça introduit dans la relation crédit? Et bon voilà, je prendrai un peu les choses comme ça. Disons plutôt que de seulement étudier la question de l'exclusion bancaire, qui est encore une fois pas légitimement étudiée. Enfin, les projecteurs sont un peu braqués sur cette question aujourd'hui.
Mais pour pouvoir faire cette étude, en fait, il faut vraiment travailler dans le milieu bancaire, avoir accès en fait à ces comptes. C'est pas sur facile en fait, hein. C'est pas confidentiel. Hein.
Si on rencontre quand on fait ce type d'enquête, la question du secret bancaire, hein. C'est pour ça par exemple que je n'ai pas donné le nom de la banque dans laquelle j'ai fait l'enquête. Bon, cela dit, parce que ce que je voulais dire, c'était travailler pas simplement sur le fonctionnement du compte, mais sur le rapport au compte en général. C'est-à-dire, c'est un petit peu aussi se dire. Donc, de ce point de vue-là, on a, il y a le fonctionnement, mais il y a aussi un peu l'exprimer le rapport au compte. C'est celui-là.
Ça peut être dépendre de la relation que vous avez avec la banque, parce que. Il y a des gens extérieurs qui peuvent avoir accès à une étude sur le comportement des clients. Donc, mais à ce moment-là, ils sont tenus très professionnels. Donc en fait, ça dépend du degré de la relation que vous avez avec la banque pour qu'elle vous dise oui, ok, on puis vous signera un papier disant que vous engagez RAM, particulier, les noms, etc. Mais bon, c'est le nom qui est important. Le fait qu'on parle de votre compte qui est important. Enfin, le fait qu'on parle d'un compte en général, de madame ou monsieur.
Voilà, c'est à partir du moment où on prend un ça dépend de manger la relation de la banque au client, ça part.
Je trouve que justement la banque que tu dis là, elle est présentée comme banque mutualiste, tout en disant que ça c'est une assurance mutualiste. Et comme à l'intérieur du mutualiste, en gros le Crédit Agricole est comme très très différent d'une petite banque, est-ce que le fait que ce soit une banque mutualiste a selon vous des effets sur ce que vous avez pu observer, ou est-ce que vous pensez que c'est une général sur les comptes sur les...
Non, je pense que ça a des effets, parce que ce que j'ai dit, je pense que les travaux que j'ai cités tout à l'heure de Nicolas Zéber, je trouve que c'est utile à cette position. Alors peut-être que l'opposition est un peu tranchée, moi ce que je contestais, c'est, enfin, ce que j'essaie de relativiser, c'est l'opposition commerciale du journaliste. Parce que cette opposition-là, elle me semble, enfin, difficile à tenir quand on pense par exemple à la médiation du travail.
Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que du coup, dire que c'est mutualiste, parce que c'est pas encore un impact, mais parce que ce serait pareil si vous étiez allé à l'aide d'une copine.
Non, je pense, bon, mais alors là-dessus, j'ai. Vous savez, je fasse une comparaison systématique, c'est une autre option à faire, mais moi, ça a une importance. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de ne pas considérer, le fait de ne pas considérer que lorsqu'un client s'est mis dans la panade, il s'est mis lui-même dans la panade, mais décider de le mettre en garde, de prendre ce rôle moralisant, moralisateur, de dire bon là, c'est pour ce qu'il faut, je ne vais pas me faire d'être, etc., etc., ça a l'air, d'après ce que j'en sais, mais je ne suis pas énormément, mais ça a l'air, une tendance, ça a l'air d'être plus répandu. Une banque socialiste que certaines banques
avaient. Ça peut s'expliquer par une structure de pouvoir. Hein. Parce que dans un système mutualiste, vous avez une relation à la rentabilité du capital qui est beaucoup plus lente. Donc vous avez une perception du temps qui est plus longue. Il faut que, effectivement, il faut que le capital rapporte, parce que de toute façon, toute entreprise y est tenue, il faut que ça marche. Hein. Mais vous n'êtes pas forcément contraint à une réalisation très rapide de ce rendement, de cette rentabilité. Donc ça vous donne du temps. Donc le temps est très important à tous les niveaux, y compris dans la relation avec le client. Vous avez un peu plus la possibilité de recul. La deuxième, c'est certainement la structure du pouvoir à travers les conseils d'administration. C'est en général, vous avez une structure décentralisée. Ils font qu'il y a une espèce de rappel en retour, c'est-à-dire qu'il faut que l'affaire marche, donc il y a la structure hiérarchique et la structure salariée, qui dit qu'il faut que ça rapporte, il faut qu'on gagne, et vous avez une structure souvent assez locale, qui rappelle en retour, qui dit, mais attendez, un tel, je le connais, il s'est refusé son truc, mais ça me dit, il est très bien, il bosse, enfin bon. Et vous avez, alors c'est pas tout le temps, hein, faut pas non plus idéaliser, hein, mais c'est cette relation au pouvoir, elle est quand même très forte, elle est permanente, c'est-à-dire qu'elle règle tous les cas, hein, soyons très clairs là-dessus. Hein. Mais c'est très important, cette perception de la rentabilité du capital et également d'une sorte d'équilibre. Plus le fait qu'il y ait des structures décentralisées qui font que la relation entre les gens est une relation, j'allais dire, plus humaine, non, c'est un jugement que je mets là, mais une relation, on tient compte quand même du fonctionnement de la vie. Il y a un peu plus que si je suis. Mais tout n'est pas parfait, parce que c'est présent des inconvénients. Hein. Si jamais vous avez une mauvaise étiquette, ça peut être une relation. Hein. Bon, donc il faut aussi tout à fait très très objectif. J'essaie simplement d'expliquer pourquoi il peut y avoir une différence.
Non,
je pense que ça peut tout à fait faire l'objet d'une question, enfin, c'était un peu la même question entre la pote spécificité, pas spécificité et la hiérarchie. Donc, je pense qu'on pourra en reparler plus dans la discussion générale.
Oui, oui, alors moi, ça me semblait que la suppression avait été en marché, soit parce qu'on est dans un autre tempo, comme vous dites, soit parce qu'on essaye, par mon côté, le devoir de ne pas vendre du crédit à des personnes.
Le rapport au temps, c'est intéressant.
C'est fondamental. Ce qui est en là aussi, excusez-moi, je peux être trop, mais il faut relativiser. Et ça, tous les groupements mutualistes ont une